souligner dans cette étude sur la personne, c'est le comment que nous cherchons et non pas un principe. Je crois que nous avons deux types d'interrogations. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et nous recherchons le qu'est-ce, le premier dans l'ordre du causalité matérielle, le premier dans l'ordre de la causalité formelle, causalité efficiente, causalité finale. Ça, c'est la recherche des principes. Alors, cette recherche des principes, c'est une recherche. C'est la recherche fondamentale. Première, on cherche le principe. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Quand je vous vois, je me dis, qu'est-ce que c'est que l'homme? Est-ce que c'est l'homme qui s'est poussé la barbe? Est-ce que l'homme s'est poussé ses cheveux? Est-ce que c'est l'homme qui s'est telle ou telle tenue? Qu'est-ce que c'est que l'homme? Alors, qu'est-ce que c'est que l'homme? Matériellement, il a un corps. Si on définit l'homme par le corps, c'est une définition matérielle de l'homme qui est semblable à celle de la vache et du cheval. La différence, c'est que l'homme marche sur deux pieds et que la vache marche sur quatre. C'est une très grosse différence, évidemment. Point de vue de la cause matérielle, c'est que nos bras n'ont jamais la vigueur de nos jambes. Donner un coup de pied à quelqu'un, c'est plus vache que de donner un coup de... Bon. Sa cause formelle, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est? Cause matérielle, cause formelle. Cause efficiente, d'où il vient, où il va. Cause finale, sa finalité propre. Bon, les principes, on cherche les principes. En métaphysique, les deux principes, substance et acte. Ordinairement, la métaphysique dans la scolastique était réduite à chercher la substance. L'acte était déjà dégringolé. Alors, il faut remettre l'acte. Et puis, il faut savoir que la connaissance philosophique, il y a deux grandes interrogations. Totalement différentes, qu'est-ce et comment. Comprenez bien que vos interrogations, c'est toujours qu'est-ce et comment. Vous n'avez pas une troisième. Cherchez bien si vous avez une troisième et que c'est vrai. Vous serez génial, on l'appellera troisième interrogation de votre nom. Qu'est-ce? Prenez simplement le gosse qui pose la question. Première fois qu'avait le TGV, le gosse avec sa mère. Qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est que TGV? Qu'est-ce que c'est que TGV? Qu'est-ce que c'est qu'un ours? Il voit un ours dans une maison où on vend des nounous. Elle dit qu'est-ce que c'est? Puis on lui dit après, en réalité, il regarde dans un jardin, dans un parc animaux. l'ours qu'il avait pour jouer. Et puis l'ours, et sa mère lui dit, fais attention, ne le touche pas, il pourrait te mordre. Alors que l'autre, il pouvait le toucher. Alors qu'est-ce ? Puis, on va poser la question, comment ? Et le comment avait complètement disparu en scolastique. On ne regarde plus la question du comment. Alors, le philosophe qui vit avec ses contemporains s'aperçoit qu'il y a deux grands mouvements de la philosophie. La recherche de la nature, ça vient des Grecs. La recherche de la nature. Puis, à partir du XIVe siècle, quand on étudie le XIVe siècle, on voit que nouvelles questions, nouvelles interrogations, le comment. Mais personne. Je vois une vache, je vois un mouton, ils sont tous les deux des animaux, mais comment vivent-ils ? Est-ce que le mouton va auprès de la vache ? Donc le mouton ne va pas auprès de la vache, elle va auprès du mouton. Comment, le comment, le pose. Alors, réfléchissez un peu sur qu'est-ce que c'est que l'interrogation du pose, du comment. Sur vous. Comment vivez-vous, voyez, une visite canonique. Le père général ne va pas demander quelle est la définition du religieux. Non, non, mais comment vivent-ils ? Comment vous vivez votre vie religieuse ? Ben, ce n'est pas de la métaphysique, ce n'est pas la question de qu'est-ce que c'est. Vous pouvez avoir une très belle théorie de la vie religieuse, une très belle définition, c'est merveilleux. Mais le comment, comment vivez-vous ça ? Vous voyez ? Alors, on a laissé tomber le comment parce que c'est beaucoup plus complexe. Mais de fait, le positivisme, beaucoup plus tard, le positivisme qui est né et qui a pris toute une oraison très grande avec Auguste Comte, le positivisme se pose l'unique question du comment. Donc vous voyez, il y a en quelque sorte trois moments dans la recherche philosophique. La philosophie grecque, la recherche des principes, des causes, la recherche du sujet, un premier comment, et la recherche du comment au niveau des activités. Ça m'intéresse, hein. Est-ce que la recherche du comment d'Auguste Comte, du savant, supprime la recherche du première de la philosophie grecque ? Qu'est-ce ? Qu'est-ce au point de vue causalité formelle ? C'est-à-dire, qu'est-ce cette détermination ? Sa finalité, c'est très important, c'est principal, ça. Mais il faut se poser la question du comment. Je pourrais très bien rester là, Venise. Je le faisais toujours les autres années. Au début, quand je faisais cours sur la personne, je restais toujours sur la substance et l'acte. je me suis dit, mais non, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quelque chose de plus. Le comment de l'homme, c'est sa personne. Comment vivez-vous? Et comment votre voisin vit-il? Il n'est pas tout à fait de la même façon. Et comment nous-mêmes nous vivons, il y a des étapes. Vivre sa vie en étudiant, vivre sa vie comme professeur, vivre sa vie au-delà du professeur, au-delà d'étudiant, en rentier, en attendant sa mort. C'est des comment très différents. Le comment du petit bourgeois, le comment du savant, de vie totalement différente. Et c'est très important pour nous, parce qu'il s'agit de sanctifier le bonhomme. Est-ce que vous sanctifiez sa nature? Est-ce que vous sanctifiez sa personne? Est-ce que vous sanctifiez son comment? Posez-vous la question, puisque vous êtes des apôtres. Est-ce que vous avez l'intention de le sanctifier dans sa nature? Est-ce que vous pouvez changer sa nature? Non. Ah, sa personne. Tiens, la sainteté regarde la personne. Et la sainteté, c'est comment il vit. Prenez-la, là, si vous voulez avoir tout de suite, vous voyez tout de suite. Comment il vit? Comment il a vécu? A-t-il vécu comme un saint? A-t-il vécu comme un parpaillot? Comment a-t-il vécu? Comment? Et c'est la question que les gens se posent. Le comment, c'est concret. Vous voyez, je ne le déduis pas. Je l'expérimente. J'ai un contact différent avec telle personne, telle autre personne. Et pourquoi j'ai ce contact différent alors que tous les deux sont des hommes? Mais ils ont une vie très différente. Et je ne contacte pas de la même façon quelqu'un qui est ouvrier et quelqu'un qui est patron. Je ne lui pose pas les mêmes questions et je le vois autrement. Je le regarde autrement. Donc, c'est son comment qui m'intéresse. Alors, est-ce que je peux étudier son comment? Parce que vous pouvez me dire, ah non, je n'étudie pas, c'est ça, c'est son secret. Mais non, est-ce que je peux étudier son comment? Et comment vais-je étudier son comment? Et c'est ce que nous faisons. Comment nous allons étudier le comment de l'homme? Première piste, autonomie. Deuxième piste, intelligence. Troisième piste, sa volonté. Quatrième piste, voilà. Ce sont des pistes qui me permettent, non pas d'aboutir à des principes, mais de voir comment il utilise. Comment il met en exercice son intelligence, sa volonté. Et je cherche le comment. Et le comment, je peux l'expérimenter. Le principe, je ne l'expérimente pas. je le pose par mon intelligence. Mais le comment, je l'expérimente. J'ai mon comment à moi et j'essaie de saisir le comment de mon voisin. Et quand je suis trop enfoui dans mon comment, je le regarde à travers mon comment. Alors, je n'y comprends rien. Et je sais que je ne vais pas le regarder à travers le comment de Dieu. Ah. Et quand j'étudie à travers le comment de Dieu, je l'étudie dans une vision sapientiale. Mais étudier l'homme comme à partir du comment de Dieu, à partir du gouvernement de Dieu sur lui. Alors, qu'est-ce que je regarde? Vous voyez, c'est quelque chose de très concret. Et c'est des choses qu'on oublie. Et en face du positivisme des savants d'aujourd'hui, c'est très utile de savoir de réaliser le comment. Auguste Comte. Alors, oui, on est dans. C'est tout à fait différent de la recherche des principes. Tout à fait différent. C'est la recherche d'une expérience. Chacun d'entre nous, nous sommes une personne. Si vous n'étiez pas une personne, vous ne seriez pas là. Vous seriez peut-être dans un hôpital psychiatrique. C'est encore la meilleure place. Parce que votre vie consiste à ne faire que quelques gestes. Quand on visitait des pauvres, ces pauvres, je voyais quelqu'un qui, pendant toute sa vie, mais toute sa vie que je connais, il ramassait par terre un caillou. Il le mettait devant lui. Il reprenait ce caillou, il le mettait par terre. Un certain temps, il reprenait le caillou. Alors, évidemment, quelqu'un qui fait ça toute sa vie, on dit il est fou. Qu'est-ce que c'est, au point de vue philosophique, qu'est-ce que c'est que ça? Ça représente quoi? Venu philosophique toute sa vie. Et moi, je suis resté un quart d'heure devant lui. Il ne m'a même pas dit bonjour. C'était le caillou qui l'intéressait. Alors, il y avait les infirmières qui le connaissent. Il dit oui, il fait ça toute la journée. Toute sa vie consiste à faire ça. Terrible. Sa personne humaine sera amenée à ça. Oui, au contraire, un grand savant, sa personne humaine se ramène à quoi? À voir ce qu'on a dit sur lui, sur la personne humaine, sur l'homme, maintenant, puis ce qu'on a peut-être oublié, et voir si vraiment on n'a pas oublié ça. Et si on l'a oublié, le remettre. Vous voyez ? avec le pouce, le comment de la personne, on cherche à étudier tous les éléments qui sont impliqués dedans. Cet homme qui était réduit à amasser un caillou, reposer ce caillou, il n'y a pas beaucoup de dignité. Et vous dites, ramenez toute sa vie humaine à ça. Alors, quand il y avait des saintes religieuses qui faisaient par amour pour le Christ, mais quand cet amour n'existe plus, on traite ces pauvres gens comme du bétail. Exactement. On leur apporte une soupe, on leur apporte les différentes, comme on le fait pour des poussins, comme on le fait pour des chiens. Alors, cette personne, est-ce qu'il y a encore une personne? Et pourtant, il y a quelque chose qui n'est pas sa nature. C'est pas sa nature de faire ça. Il est condamné à ça. Alors on l'expliquera. On dira, parce que justement, on donnerait une explication scientifique. Mais ce qui m'intéresse, c'est lui. Comment vit-il ça? Comment vit-il ça? Et comment vit-il ça si ça fait partie de sa personne? Où il n'y a vraiment plus grand-chose comme personne, de son individu.
Mais mon père, ça pose la question du handicap.
Oui,
comment est-ce que le philosophe peut intégrer dans l'analyse de la personne la question du handicap naturel?
Parce que justement, la cause matérielle est source de quantité de troubles. Tout être matériel peut être handicapé, même chez les animaux. La causalité matérielle. La cause matérielle explique c'est comment. Et ça, vous ne pouvez pas le prévoir, vous ne pouvez pas en partie. Mais tout le grand problème que on peut. Je connais un médecin qui passe sa vie à faire des opérations au fœtus, dans le sein de leur mère, pour essayer de guérir un handicap qu'on a prévu. Et faire que les parents gardent l'enfant malgré son défaut. On fait que, vu la manière dont on a pu le connaître, que toute sa vie il sera handicapé et il pourra, un handicap profond. Par exemple, un bras et une. Ils sont morts. Et on peut le voir, on peut s'en apercevoir dès le sein maternel. Et la mère, les mères qui apprennent ça, alors très facilement, autour d'elles, on dit, ah, supprimez-le, ça va être une charge, ça va être effrayant. Alors, avez-vous le droit de supprimer le gosse? Même s'il est handicapé. Et vous devez demander à la mère de garder cet enfant. Elle veut le mettre au monde. Elle sait qu'il sera handicapé gravement. Ça, c'est le gros problème. Et on permet, il y a même une loi, permet à la mère, je ne sais plus exactement quelle date, de faire. ça donne à la mère le droit sur la vie. Comme si la mère avait un droit sur la vie. Pour nous, Dieu seul a un droit sur la vie. Il n'a pas le droit sur la vie de Mouhoud, même s'il est handicapé. Je dois le soigner. Mais c'est rude, hein. Dans les problèmes qui sont extrêmement difficiles, à essayer, non pas tout théoriquement, c'est vite fait, mais quand on est devant la réalité, de faire comprendre à une mère, mettre au monde un monstre, pas entièrement monstre, mais un monstre. Je connaissais à Fribourg la sœur, sage-femme, qui pendant toute sa vie, avait des... un jour elle est arrivée chez moi, affolée. Mais complètement affolée. Mais je disais, c'est une personne très raisonnable. Et qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est effrayant. Jamais vu ça de ma vie. Il y a une petite jeune fille que je connais qui vient d'avoir un enfant. Et cet enfant, il est difforme. On reconnaît à peine. De monstre. Je ne peux pas le montrer à sa mère. C'est impossible. Elle me dit, je connais cette fille, je la connais bien. Je sais bien qu'elle n'est pas sérieuse. Je sais que depuis qu'elle a 15 ans, elle prend des pilules qui arrêtent l'avortement, qui arrêtent la conception et qui font avorter. Là, elle voulait avoir un enfant. Et la nature a répondu, hein. Depuis 15 ans, elle refuse d'avoir un enfant. Et elle prend des pilules abortives. Elle a la folie. Qu'est-ce que je dois faire ? Demandez au médecin, est-ce que vous croyez que cet enfant peut vivre ? On ne peut pas le montrer à sa mère. Elle me dit, je ne peux pas le montrer à sa mère. Et dire qu'elle est. On est devant des cas effrayants, hein, parce que la nature, elle résiste à beaucoup de choses, mais la nature a des vengeances. Alors pour finir, cet enfant n'était pas vivable, donc il est mort de lui-même. Le soir même de sa naissance. Ça a soulagé tout le monde, parce que ça donnait la solution. Il n'était vraiment pas vivable. Et il était affolé, je comprends. Oui, handicap. La nature. Normalement, la nature engendre la nature. Normalement. Donc il y a une loi très profonde, mais quand justement la source elle-même n'a pas été ce qu'elle aurait dû être, alors la source est faussée. je crois qu'on va être constamment devant des cas extrêmes, moins de valeur morale, de personnes qui vous demandent leur conseil. Là, si on est chrétien, si on a un petit peu un sens moral, on est quelquefois dans cette situation très difficile. Surtout qu'aujourd'hui, les gens ne savent, disent qu'il n'y a plus de secret. Alors, tout ce que vous dites, ce sera répété. Je veux être extrêmement net là-dessus. Mais, heureusement, nous ne sommes personne. Alors, il y avait des objections, je crois.
L'essentiel des questions concerne ce que vous avez déjà évoqué.
Ah, très bien.
À savoir le rapport entre principe, cause et puis le comment. Et nos questions tournent autour de ces deux pôles-là. La première question, quelle est la place du relatif et de la relation dans la philosophie et la métaphysique de la personne? Étant donné que la personne n'est elle-même que reliée à sa fin.
Attention, pour avoir une fin, il faut exister. Donc elle n'est pas réduite à sa fin. Elle existe avant sa fin. Qu'elle atteigne sa fin par une relation, c'est vrai. Elle atteint sa fin par une relation. Mais la relation, au point de vue être, c'est l'être le plus débile, puisqu'il n'existe qu'à deux. Pour exister, il faut être à deux. L'être le plus débile. Mais c'est aussi l'être qui nous permet le plus de nous développer. Si on nous coupait de toutes les relations, là on verrait combien on est peu de choses, isolés. Mais normalement, nous vivons de toutes les relations affectives, intellectuelles, et nous vivons de ces relations-là. Et ça ne veut pas dire que la relation devient quelque chose de très important. C'est le fondement de la relation, ça. Alors, le fondement de la relation, c'est la qualité ou la quantité. Ça, c'est sûr, ça devient très important. Mais, parce que dans notre monde, ce sont des relations personnelles qui font notre société. Mais c'est en analysant notre finalité, nous voyons qu'en effet, notre finalité, c'est une relation. Et nous vivons notre finalité. Nous avons en nous une substance, ce qui nous donne notre dignité et notre possibilité de vivre seul. Et puis, cette substance, comme c'est une substance qui nous fait dépasser le point de vue de notre état, qui nous permet vivre comme quelqu'un qui a besoin des autres. Avoir besoin des autres, c'est être relatif. Et c'est pas mal. D'avoir besoin des autres. C'est la dernière c'est ce qu'il y a de plus ténu au point de vue métaphysique, la relation. Mais au point de vue vie, on vit tout le temps de relation. Alors là, il y a le décalage entre le point de vue être et vivre. Et ça, c'est à cause de nos souffrances. Parce qu'on va avoir énormément de relations, énormément de relations. Et puis, au jour où on a un gros choc douloureux, personne ne s'occupe de nous.
Mon père Saint Paul a connu quelque chose d'analogue lorsqu'il dit que tous m'ont abandonné, seul le Seigneur m'a assisté.
Saint Paul lui était saint, il avait une relation, la relation à l'égard de Dieu qui était pour lui suffisante. Se relier à Dieu. Et cette relation à Dieu fait que tout le reste devient secondaire.
Père, vous disiez que la relation est une manière de vivre. Mais la question du frère aussi, je crois, c'était de demander si la relation. Est-ce qu'on peut dire que la relation est une dimension de la personne humaine?
Oui.
Peut-on dire que la relation fait partie des dimensions de la personne humaine?
Oui, lorsque je parle de la connaissance est un tissu de relation. Lorsque je parle de l'amour, c'est un tissu de relation. Mais je ne dis pas relation parce que c'est tout à fait générique. Donc si Newton ne me fait pas comprendre ce que c'est que la connaissance en disant que la connaissance est une relation. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont des relations. Oui.
Mais est-ce qu'on peut à proprement parler de la relation comme étant une dimension de la personne?
Non. Parce que c'est pas propre à la personne. La vache qui prend de l'herbe est en relation avec l'herbe.
C'est très éclairant.
La relation, c'est quelque chose de très fondamental. Et c'est vrai, c'est l'être le plus débile, c'est très fondamental. Donc ça joue un très grand rôle dans notre vie. Mais autre chose, se demander qu'est-ce qui joue un très grand rôle dans notre vie et ce que c'est que ce comment le vivre personnellement. Quels sont les éléments qui sont nécessaires pour vivre personnellement? Le point de vue, l'autonomie de la substance, la connaissance, et quelque chose qui vous fait. Quelque chose qu'on réalise complètement dans votre dos, vous savez pas. Vous direz tout de suite, j'en suis pas responsable. Donc, quand vous dites, je n'en suis pas responsable, qu'est-ce que vous voulez dire au fond? Vous dites, cela ne me regarde pas. Ça n'a rien à voir avec ma personne. Et donc, c'est pas un des éléments. Un des éléments de l'acte personnel est absent. Vous avez ignoré ce qu'on avait fabriqué dans votre dos. Vous n'êtes pas responsable. D'où la connaissance est un élément essentiel pour qu'on soit responsable. Si vous ne connaissez pas l'activité qu'on vous fait, ou bien n'est pas responsable. J'étudie tous les éléments qui sont nécessaires à ce qu'un acte soit personnel. Quand vous ne connaissez pas cet acte, vous ne pouvez pas dire que cet acte est personnel. Oui. C'est pour ça que la connaissance est un élément essentiel. Et que l'amour est un élément essentiel. Parce que tout ce que vous, ce qu'on fait, indépendamment de votre volonté, mais vous n'êtes pas responsable. Alors, il y a des corps qui sont des corps limites. Par exemple, pour la connaissance, je vous ai déjà dit, quelqu'un qui s'enivre facilement. À quel moment ces actes ne sont plus personnels? Vous direz, vous, point de vue juridique, quand il n'est plus responsable. Un juriste, lorsqu'il doit examiner un cas d'une activité de quelqu'un, est-il responsable ou non? Cette action est-elle personnelle, oui ou non? Et je suis sûr que le juriste serait très intéressé à ce qu'on lui dise quelles sont les conditions pour que le POS de la personne fasse que cette activité est personnelle. Et au fond, les grands juristes, sans le savoir, regarderont de ce point de vue. Parce qu'un acte où vous n'êtes pas personnel, ou un acte où vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas personnellement engagé. Oui. Donc, cette étude de la personne, ce n'est pas une induction. Je veux dire, ce n'est pas une déduction. Ça ne vous apprendra rien du tout. Tout acte humain doit être volontaire. Oui, oui. J'ai affirmé ça. Tout acte humain doit être volontaire. Une déduction. Mais cet acte-là est-il vraiment volontaire? Regardez, si cet acte-là est vraiment volontaire, est-ce que c'est une induction? Est-ce que c'est une déduction? Oui. Vous allez étudier cet acte, voir ces différents éléments, comment il a été fait, et voir si vraiment il est volontaire. Il n'a plus le droit. Oui, c'est une méthode de travail qui est très spéciale. Au fond, c'est l'étude du comment. Mais je crois que c'est absolument nécessaire aujourd'hui, étant donné que le positivisme philosophique est très répandu. Alors, il faut en face de ça résister en essayant de comprendre le comment d'une activité véritablement humaine. Quels sont les éléments qui font qu'une activité est vraiment humaine? C'est ça qu'on étudie. Premièrement, on est la dignité de poser un acte libre. Dignité de poser un acte libre. Mais après, connaissance. J'ai une volonté. C'est les trois éléments principaux, ça. Organisation personnelle. Et c'est les trois éléments indispensables pour qu'on ait soi personnel. Même pour Dieu, tout acte divin, personnel, relève de l'indépendance absolue de Dieu, relève de son intelligence et relève de sa volonté. Donc, ces trois éléments sont absolument nécessaire. Et c'est nécessaire pour que l'acte soit divin, c'est nécessaire pour l'acte, que l'acte soit humain. Un acte qui n'est pas volontaire n'est pas humain. Et c'est pour ça que pour des choses importantes, un avocat, un juriste, regardera toujours si cet acte a été fait dans un état d'ivresse, dans un état de colère, dans un état paisible. Si cet acte est fait dans un état de colère, vous avez agacé quelqu'un. Vous avez agacé quelqu'un. Au bout d'une heure, vous l'avez agacé. Il vous donne une bonne gifle. Et vous avez mérité que ça. Alors l'autre va se plaindre qu'il n'a pas respecté l'autre. Un bon avocat dira, ah, attention, vous l'aviez pendant une demi-heure, une heure, chatouillé. Alors il a réagi. Est-ce que c'est encore humain de réagir comme ça? Ou est-ce que c'est tout simplement l'autodéfense de la pauvre bête qui est liée et qui se déchante? Ouais. Samson, hein, Samson. Parce que c'est, Samson, c'est reposant de lire le livre de Samson. Il faut le lire de temps en temps. Alors, Samson, il a des actes. Est-ce que c'est des actes personnels encore? On a tous connu dans la vie, et on connaît dans notre vie, des gens très colériques. Et peut-être que nous-mêmes, nous les avons un petit peu agacés. Voilà. Comment ils se mettent en colère. On sait que cet homme est très colérique. Le mettre en colère, est-ce que ces colères restent encore des actes humains? Est-ce que celui qui l'a taquiné, chatouillé, n'est pas beaucoup plus coupable que lui? Parce que celui qui l'a chatouillé et qui l'a énervé comme ça est très conscient de ce qu'il a fait. L'autre a subi. Et donné son caractère, son tempérament, ça a dépassé les bornes. Vous voyez, et alors, il y a un moment extrêmement difficile de voir jusqu'où il a dépassé les bornes, à quel moment. Ça joue énormément. Je crois que c'est très important de bien saisir ça. Il y a la différence entre un acte humain et un acte d'homme. La vieille distinction. Un acte humain, un acte. Tous, nous avons eu dans notre vie des actes humains qui étaient des actes d'hommes. Dont nous n'étions pas coupables. éduqué. Et alors, certaines fois, à certains moments, on a dépassé les bornes. On a envoyé promener et ils avaient encore rêvé un supérieur qui en a par-dessus la tête. Il n'en va pas de jouer la tête. Un supérieur qui en a par-dessus la tête et qui alors fait à ce moment-là une activité qui n'est plus une activité humaine, qui est vraiment l'activité de quelqu'un qui est en colère. Le plus coupable, c'est pas lui, c'est l'autre qui l'a mis dans cette salle. Nous avions, c'est un vieux souvenir de collège, un père jésuite qu'on avait dénommé choléra. Et il était préfet des études. En plus, ça. Et là, quand il venait donner les notes à la fin de la semaine, on était méchants. Je le mettais en colère. On le mettait en colère. Là, c'était beau. Un ciel en colère, c'était très beau. Mais ses colères n'étaient plus, il n'était plus responsable de ses colères. Il était petit. Et alors, celle chiffonnait beaucoup d'être petit. Il n'avait pas dépassé ça. Et alors, on taquinait méchamment sur sa situation. Et c'est vrai, il n'y a rien de plus drôle de voir un singe qui est petit et qui s'est attrapé.